programme va maintenant se poursuivre en français. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Prague en français. Comme chaque samedi, trois rubriques figurent au programme de cette émission. En alternance avec le tchèque du bout de la langue, il y aura donc comme tous les 15 jours le courrier des auditeurs, un courrier suivi de la littérature, littérature dans laquelle il sera question cette semaine de l'opium de Jean Cocteau. Nous entendrons l'éditeur tchèque parler du livre, mais avant cela, place à la culture. Dans le cadre du festival du film français qui s'est achevé mercredi dernier à Prague, étaient invités Fiona Gordon et Dominique Abel, réalisateurs et acteurs issus du monde du théâtre corporel et de nu. Fiona Gordon et Dominique Abel au micro d'Anna Kubishta présentaient leur dernier opus, La Fée, qui est sorti en salle le 1er décembre. Retour sur leur début, leur monde imprégné de burlesque et de poésie.
Culture sans frontières.
Fiona Gordon, Dominique Abel, vous êtes réalisateur et acteur. Vous présentez ici le film La Fée dans le cadre du Festival du film français. Alors, j'allais dire que vous êtes un duo de réalisateurs, mais c'est pas vrai, parce que vous êtes un trio. Alors, est-ce qu'on pourrait juste aussi rappeler qui est le troisième membre du groupe ?
Oui, alors le troisième membre du groupe, c'est Bruno Rumi. C'est un Normand. Il parle pas l'anglais, donc souvent, c'est nous qui allons dans les pays... des pays où on parle pas forcément le français. Et lui, il fait beaucoup en France. Et on collabore avec lui depuis pas mal d'années déjà.
Alors justement, c'est une très bonne transition pour vous demander comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment s'est fait un peu cette synergie à trois.
Il était technicien d'accueil dans un théâtre en Normandie. Nous, on tournait une pièce de théâtre qu'on a jouée 2000 fois. Et on s'est rencontrés, il est préparé son premier court-métrage en pellicule et il nous a demandé directement de jouer dans son film. On l'a fait, on s'est bien entendu. Nous, on préparait parallèlement notre premier court-métrage et on s'est dit ben, pourquoi pas commencer à trois plutôt qu'à deux. Parce que c'est un peu, notre manière de travailler est un peu spéciale puisque c'est très physique, il y a beaucoup d'improvisation et ça collait bien à trois, on avait un sens d'humour commun.
Alors justement, vous dites que c'est un cinéma très physique. Je crois savoir que vous venez du théâtre. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous rappeler votre formation et justement, comment est-ce que vous jetez des ponts entre le théâtre et le cinéma?
Mais tous les deux, on est acteurs au départ, mais acteurs physiques aussi. Moi, j'ai fait l'université au Canada en jeu. Mais je voulais pas faire ce qu'on faisait là-bas. Je voulais pas faire les Shakespeare, les Pinter, les Tennessee Williams. Je voulais faire du théâtre physique. J'avais entendu parler d'une école à Paris qui s'appelait Jacques Lecoq, l'école Jacques Lecoq. Et donc, j'étais déterminée d'y aller. Je suis allée après l'université. Et là, j'ai rencontré Dominique. Dominique, il faisait de la science économique. Et je crois que tu as vu quelques comédiens, quelques personnes qui t'ont bien marqué. Tu peux peut-être continuer.
Oui, ben justement, en fait, je faisais les sciences éco et en dernière année, j'ai commencé à faire de la rue parce que j'ai fait un stage comme ça de rue. Dans la rue, j'étais pas encore très bon, mais je sentais que c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Ouais, ça m'excitait énormément. Et parallèlement à ça, j'ai rencontré des acteurs, bon, des acteurs belges que vous ne connaîtrez pas. Par contre, j'ai vu là une pièce de Bolek Polivka. J'ai vu d'abord Adam et Eva, je crois, Adam et Eve. Et tous ces clowns-là que j'ai rencontrés sur scène m'ont vraiment passionné parce qu'ils avaient une personnalité ils en avaient tellement d'humour et ils allaient tellement loin dans tout ce que je ressentais comme adolescent et que je ressens encore maintenant. C'est-à-dire, ils parlaient de choses dures et graves, mais avec beaucoup d'humour et sans enfoncer le clou. Et donc, j'ai demandé où est-ce qu'on peut aller apprendre ce genre de truc, et quelqu'un m'a dit va chez Lecoq à Paris, c'est une école internationale. Et j'ai rencontré Fiona qui était là, qui venait de Canada, et on a travaillé pendant 2 ans à développer comme ça une expression très physique à travers des styles de théâtre variés comme bouffon, mélodrame, tragédie, clown, comédia dell'arte, pantomime et tout ça. Dès qu'on a sorti de l'école, tout le monde repartait dans son pays. Et nous deux, on était là, un peu sur le trottoir, à se regarder. Et puis on s'est dit, bon, essayons un truc. Paris était cher quand même à l'époque, donc on est tout de suite allé à Bruxelles, d'où je venais. Et là, c'était beaucoup moins cher, il y avait des grands espaces et tout. On a pu faire notre première pièce de théâtre, premier spectacle où on avait un seul spectateur, et c'était génial.
J'allais vous demander, est-ce que vous pourriez un petit peu présenter la fée? Est-ce qu'on peut vraiment raconter finalement vos films? Parce que vos films, ils ne se racontent pas, il faut les voir. Hein, mais ne serait-ce que pour une petite mise en bouche.
C'est comme vous dites, c'est pas, toutes nos histoires sont plutôt assez simples. On essaie de laisser de l'espace pour le jeu et pour que la fragilité de chaque personnage s'épanouisse. Et donc, cette fois-ci, c'est l'histoire d'une espèce de fée, mais une fée un peu foireuse. D'ailleurs, elle n'est peut-être pas une vraie fée.
Le doute plane un petit peu hein, sur...
Oui, mais qui se débrouille parce que c'est une espèce d'humaniste inconsciente et courageuse qui essaie de faire du bien et parfois fait du mal en faisant du bien. Et puis elle voit de sa fenêtre un veilleur de nuit solitaire et décide de venir en aide. Ou bien peut-être elle tombe juste amoureuse, donc elle trouve un prétexte pour aller la voir et la rencontrer.
En tout cas, c'est le coup de foudre entre les deux, ça c'est clair, hein, puisque il y a même un bébé qui naît. Et alors, c'est intéressant parce que ces deux personnages, finalement, on les retrouve aussi dans votre précédent film, L'Iceberg. Hein, de manière différente, quoi, parce que c'est une autre, c'est une autre alchimie qui se fait, en tout cas dans le trio. Mais c'est un peu des personnages archétypaux. On a l'impression qu'on retrouve comme ça. Est-ce que justement, c'est une volonté de les retrouver comme ça, de film en film?
Oh, c'est toujours nous, c'est-à-dire on est des clowns un peu... quand on est clown, on n'essaye pas d'imiter d'autres ou de composer un personnage, on essaye surtout c'est d'utiliser ce qui nous diffère des autres et de exposer notre propre maladresse, nos fragilités, nos bêtises, nos conneries. Et donc ça, comme on base toujours notre écriture sur ces deux personnages, ben on les retrouve, mais dans des métiers différents et dans des relations différentes. L'iceberg dont tu parlais, c'est un peu une crise d'une femme qui se rend compte qu'il y a des enfants, qu'il y a un mari, qui se rend compte qu'elle est même plus remarquée, elle n'existe plus, elle est transparente. Et donc, pour des raisons un peu difficiles à expliquer, elle part voir un iceberg et le mari qui se réveille se dit mais où est-ce qu'elle est et il se met à la suivre. Donc c'est une espèce de sea movie. Rumba qu'on a fait après, c'est un couple super heureux qui adore danser, la danse latino. Et c'est des profs et un jour il y a un accident terrible et c'est un peu comme si le destin va détricoter tous les signes qui tout le côté matériel de leur vie va les appauvrir, va s'acharner dessus jusqu'au bout du bout du bout. Et voilà, ici c'est la fée.
Mais j'avais envie de dire, alors c'est pas parce qu'il y a une fée dans ce film aussi, mais j'avais envie de dire que c'était plutôt des contes en fait, vos films.
C'est souvent un petit peu des contes ou des fables. On se détache un tout petit peu de l'actualité, même si souvent on utilise les choses qui nous imprègnent, nous, dans l'actualité pour écrire, mais on essaie de trouver un contexte un peu plus large, un petit peu moins défini, pour pouvoir faire nos conneries, en fait. Et aussi, on a envie que ça soit valable dans 20 ans et dans 100 ans.
Parce que c'est intéressant, vous dites justement que c'est pas imprégné de l'actualité, mais dans la fée, il y a quand même ce problème des clandestins qui se retrouvent dans cette région de Normandie, au Havre, qui veulent passer de l'autre côté en Angleterre. Donc ça, c'est vraiment de l'actualité. Mais finalement, c'est important, mais ça se mêle à l'histoire et au conte lui-même, en fait.
C'est justement pour mieux parler de tout ce qui nous touche dans le monde actuel qu'on prend cette espèce de recul. C'est une espèce de filtre pour pas se prendre au sérieux, on fait pas de la politique, il n'y a pas de message, c'est pas didactique. Donc on aime bien aussi, on a un style visuel particulier quand même. On est dans un humour physique, dans une poésie, mais ça nous permet d'attaquer les choses qui pour nous font un peu mal, c'est-à-dire... Tout ce que vous voyez aussi à la télé, à la radio, tout ça, ça nous imprègne.
Alors je pense qu'on vous l'a sans doute fait remarquer depuis que vous êtes ici, mais alors votre film se passe au Havre, il y a ce problème des clandestins aussi, et il se trouve que dans le cadre du festival est présenté également en avant-première le Havre de Aki Korismaki, qui d'une certaine manière en fait fait un peu écho à votre film aussi, enfin ou les deux en tout cas on se retrouve ici par une espèce de coïncidence sympathique. Hein.
Oui, je crois que c'est ce thème-là, en tout cas, dans l'air du temps, vraiment. Nous, les présences des immigrés, ils sont souvent présents dans nos films. D'ailleurs, dans l'iceberg, ils y étaient aussi. Parce que on ne peut pas les oublier. Nous qui voulons parler des gens qui sont fragiles et démunis, qui est plus fragile et plus démuni que des gens qui viennent d'un autre pays, déjà très très pauvres, hein, et qui n'arrivent même pas dans les pays où ils arrivent à faire quelque chose. Oui, ça c'est des choses, et je crois que tout le monde est touché par ça, et il doit y avoir plein de films qui tournent autour de ce thème-là.
Et puis alors il y a aussi cette ville, Le Havre, ça doit être une ville extraordinairement photogénique finalement, pour tourner.
Oui, il y a Belvaux, il y a un tas de réalisateurs qui soudainement tournent là-bas. Pour nous, c'était un hasard complet de croiser Coris Maki. Il était juste avant notre film et on s'est dit, mais c'est pas possible. Au début, ça nous faisait un peu peur, d'ailleurs, pour la comparaison. On s'est dit, Et puis après, quand on a vu son film, on s'est dit, on l'admire beaucoup, Coris Maki. Bon, il a commencé avant nous. Il a un humour qui est différent du nôtre, mais qu'on aime beaucoup. Et il avait choisi cette ville aussi. Mais c'est pas un hasard, je crois. C'est que ce qui nous attirait, c'est le côté. C'est très visuel. C'est comme une maquette géante. Tout le centre-ville a été rasé pendant la guerre et reconstruit dans ce style moderniste, en béton, avec des lignes de fuite, avec des perspectives. On ne sait pas où on est. On ne sait pas si on est en France, en Allemagne de l'Est ou à New York. On ne sait pas si on est dans les années 50 ou si on est maintenant. Et c'est une espèce d'intemporalité qui nous plaît beaucoup.
Comment on travaille à trois? Parce que vous êtes à trois, alors ici vous êtes deux, mais comment est-ce qu'on travaille à trois pour pas se marcher sur les pieds ou en même temps pour que chacun trouve un peu sa place et chacun puisse amener ses idées et que ça se complète?
Bon, au début, on se marche un tout petit peu sur les pieds quand même parce que chacun a ses idées et essaie de faire comprendre à l'autre que c'est vraiment la meilleure idée. Mais comment on travaille, on s'envoie des emails en fait, où chacun écrit son histoire, chacun reçoit l'histoire de l'autre, on parle ce qu'on n'aime pas. On garde ce qu'on aime, on rajoute à sa version, et petit à petit, les versions qui se rejoignent, jusqu'au moment où on a un truc qui tient, mais assez basique, c'est un canevas assez squelettique. Ensuite, tous les trois, on se réunit dans notre salle de répétition à Bruxelles, et on improvise toutes les propositions, toutes les scènes avec le caméra. On joue tous les rôles, souvent c'est Dom et moi qui joue Dom et Fiona, et Bruno joue les autres rôles, mais pas toujours. Parfois il me joue moi, et moi je joue quelqu'un d'autre, ça dépend. Ensuite on regarde ce qu'on a filmé, et en fonction de ce qu'on a vu, on garde ou on garde pas. Et là on est souvent d'accord, parce que du coup ce n'est plus quelque chose de subjectif, mais on est un petit public, on regarde ensemble, et puis on est désolé, c'est navrant.
Donc c'est important que vous riez aussi à ce que vous faites.
Oui. C'est une partie où on rit beaucoup, enfin on rit beaucoup, non. Il y a parfois c'est navrant, parfois on regarde et il y a 2 heures d'improvisation horrible. On essaye de presser le citron pour voir comment s'en sortir et il n'y a rien qui sort. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'est mal écrit en fait. Et donc on va devoir... parfois il y a des choses nouvelles qui sortent et qu'on n'y avait pas pensé à l'écriture et qui vont nourrir l'écriture. Et ça va durer pendant plusieurs mois. Mais dans ces plusieurs mois d'essai, on a beaucoup de plaisir quand même.
Juste pour terminer, dans le film, évidemment, la fée demande 3 vœux. Alors, on ne sait pas vraiment quel est le 3e vœu, en tout cas pas jusqu'à la fin. Quel est votre 3e vœu?
On l'a pas dit exprès, c'est-à-dire qu'on a bien cherché dans l'écriture. Hein. On a cherché un tas de bêtises, hein, parce que il faut savoir qu'on cherchait de toute façon des vœux un peu rikiki, ça nous plaisait, et à la fois qu'il y ait un sens quand même. Et puis, quand on a eu l'idée de... Enfin, je peux pas le dire en fait, sinon je vais déjà, je vais tout dire. En fait, on a laissé, disons, une certaine ouverture et ça nous plaisait. Parce qu'en fait, l'important, tout comme on voulait éviter l'évidence de 3 milliards de dollars qui nous rend, on le sait, personne heureux, on a réussi à éviter ça et à parler de l'essentiel, c'est-à-dire que cette fée-là, elle vient donner de l'amour à quelqu'un et elle essaye de donner, d'aider les gens profondément quand elle les aime, d'une manière un peu égoïste d'ailleurs, parce qu'elle va pas aider tout le monde, c'est ceux qu'elle aime qu'elle aide. Et donc là, elle a réalisé ses 3 vœux à ce niveau-là.
Et puis place maintenant à l'une de vos rubriques préférées, le courrier des auditeurs bien entendu, une rubrique qui vous est présentée exceptionnellement cette semaine par notre stagiaire Jean-Sébastien Létang.
Courrier des auditeurs. Nous avons reçu quelques questions d'auditeurs par l'intermédiaire des rapports d'écoute et nous allons essayer d'y répondre le mieux possible. Place au courrier des auditeurs. Vous avez été nombreux ces dernières semaines à nous envoyer vos rapports d'écoute et nous vous en remercions. Nous espérons que vous avez reçu vos cartes QSL et qu'elles vous plaisent. Rappelons que l'an prochain, c'est-à-dire très bientôt, une nouvelle série de cartes sortira décorée par les œuvres de peintres tchèques célèbres. Donc n'hésitez pas à nous écrire afin de nous donner vos impressions sur les émissions ou alors vos commentaires. Tout d'abord, pour répondre à la question de Marie Quenel, qui suite à l'article de Václav Richter sur Ivan Klima, nous demande si les œuvres de l'écrivain ont une chance d'être traduites en français. Comme vous le faites remarquer, Marie, Amour et Ordures est sorti aux éditions du Seuil en 1992. Épuisé, on peut encore le trouver d'occasion sur Internet. Quant à Esprit de Prague, qui est paru aux éditions du Rocher en 2002, il est encore facile à trouver. Nous ne savons pas si Ivan Klima a un agent en France, ni s'il existe des projets de traduction de ses autres œuvres en français. Cependant, outre les deux que vous mentionnez, certains de ses livres sont d'ores et déjà disponibles en français. C'est le cas des Amants d'un jour, Amants d'une nuit, publié par les mêmes éditions du Rocher en 2002, mais aussi d'Un été d'amour, publié en 1991 au Seuil. Ces livres sont facilement disponibles en occasion sur Internet. Certains autres livres sont par contre traduits en anglais ou en allemand. Comme vous le dites, il est regrettable que les auteurs tchèques soient si rarement traduits en français. Monsieur Philippe Aubray nous écrit de Côte d'Ivoire au sujet de la situation des médecins en Tchéquie et en Slovaquie, problématique à l'heure actuelle.
L'appel de la Slovaquie sur les besoins en médecins tchèques m'interpelle sérieusement. Tout de même, il s'agit de plus de 2000 médecins. Alors c'est tout de même un besoin difficile à couvrir, même si on a de la bonne volonté. Les Slovaques devraient trouver un terrain d'entente avec leurs techniciens afin de trouver une solution, parce que la santé est un domaine très sensible. Alors, question pour vous, il est probable que vous ayez un bon ratio par rapport à la population. Qu'en est-il exactement ?
Sans connaître le chiffre exact à l'heure actuelle, le nombre de médecins par habitant était de 355,70 pour 100 000 habitants en 2006, ce qui n'est pas énorme. Cependant, suite à la grève des médecins slovaques, les médecins tchèques ont décidé à leur tour de faire grève par solidarité. Le gouvernement a décidé d'envoyer des médecins militaires en Slovaquie pour aider à résoudre le problème. Au passage, merci Monsieur Aubray pour vos compliments et encouragements. Nous avons reçu un message d'un auditeur des plus fidèles également, Monsieur Kimour Kaloubi, qui nous écrit de République démocratique du Congo et qui avait gagné un concours organisé par Radio Prague en 1985.
Je viens de suivre votre émission, le courrier des auditeurs sur Internet. L'audibilité est très bonne et je vous félicite de vos efforts pour nous informer, bien que vous ne mettez pas un nom de courte depuis Kinshasa. Moi qui vous parle, aujourd'hui je suis un vieil auditeur de votre station. Vous vous rappelez du grand concours de Radio Prague de 1985. Je suis lauréat du dit concours et le gagnant d'un séjour à Prague. C'était un bon voyage qui m'avait permis de découvrir la beauté de votre pays à l'époque. J'avais eu la chance de visiter la station et votre studio entre le 24 juin 1985 et le 2 juillet 1985. Le château de Prague, des villes du pays et beaucoup d'endroits. J'aimerais reprendre contact avec votre station comme dans le passé.
Nous sommes très émus par votre message, Kimour. C'est incroyable de savoir qu'un auditeur se souvient de la radio après 26 ans. Malheureusement, nous ne pourrons vous donner les contacts des journalistes présents à cette époque, à la station, tellement les choses sont différentes maintenant. Avec le changement de régime en 1989 et la séparation entre la République tchèque et la Slovaquie en 1993, Radio Prague a beaucoup évolué. Et son équipe s'est renouvelée un grand nombre de fois. Merci beaucoup en tout cas pour vos encouragements et de nous avoir fait partager votre histoire. Nous espérons que vous resterez fidèles aux émissions de Radio Prague encore au moins aussi longtemps. Saluons également nos auditeurs du Japon, Motofumi Kai ainsi que Osamu Aikawa pour leur message d'encouragement. Merci à nos auditeurs de France, de Belgique, d'Afrique pour vos messages et votre fidélité. Continuez à nous faire parvenir questions et rapports d'écoute et à bientôt sur Radio Prague.
C'était C'était donc le courrier des auditeurs, le courrier des auditeurs, je vais y arriver, qui était présenté par Jean-Sébastien Le Temps. Et puis comme chaque samedi, c'est donc la littérature qui referme notre émission. Dans cette littérature, cette semaine, il est question du livre que le poète Jean Cocteau a intitulé L'Opium. L'Opium est une espèce de reportage sur une cure de désintoxication bien particulière. Václav Richter s'est entretenu avec l'éditeur tchèque de ce livre. Voici la reprise de cette émission que nous avons diffusée en avril dernier.
Rencontre littéraire. L'opium dégage l'esprit, jamais il ne rend spirituel. C'est par cette constatation que le poète Jean Cocteau a défini l'influence de l'opium sur les capacités spirituelles de l'homme. Le poète savait bien de quoi il parlait. Ses expériences avec cette drogue étaient longues et multiples. Elle lui a même inspiré un livre qu'il a intitulé « Opium, journal d'une désintoxication ». La traduction tchèque de ce livre est sortie aux éditions Roubato. C'est le jeune éditeur Petr Janus qui a traduit en tchèque cet ouvrage insolite retraçant une expérience du poète toxicomane qui a décidé de partager avec ses lecteurs ses impressions d'une cure de désintoxication. Le livre est cependant loin d'être un simple constat des faits, une description des symptômes de manque à l'arrêt de la consommation d'une drogue. Œuvre littéraire à facettes multiples, Opium est surtout un portrait haut en couleur de son auteur et de ses rapports avec son temps. C'est aussi une réflexion originale sur la création artistique. L'auteur ne se contente pas de dévoiler au lecteur une partie de sa vie intérieure et de lui faire connaître ses opinions sur toute une gamme de problèmes, mais il fait défiler devant lui une pléiade de personnalités du monde des arts et des lettres qui ont joué un rôle dans sa vie et l'ont influencé. Souvent, il lui suffit de quelques mots, d'une phrase, pour donner une caractéristique pertinente d'un phénomène social, d'une de ses œuvres précédentes, ou pour révéler un aspect peu connu d'une personnalité importante. Il réussit à présenter sous un angle inattendu, entre autres, Picasso, Satie, Stravinsky, Hugo, Radiguet, mais aussi les infirmières qui le soignent. Il évoque ses souvenirs de Marcel Proust et de Raymond Roussel et cherche les ressemblances intérieures entre ces deux auteurs qui étaient pourtant si différents. Petr Janus pense que ce témoignage sur un épisode difficile de la vie du poète peut intéresser toute une gamme de catégories de lecteurs, y compris les historiens de littérature, parce qu'il y a des passages qui commentent les activités littéraires de l'époque. Ce n'est, d'après lui, que la dimension littéraire, artistique et historique de cet ouvrage qui est beaucoup plus complexe.
Il y a cependant aussi une autre dimension, celle du témoignage d'un individu extrêmement sensible qui se retrouve en difficulté et se heurte à sa propre existence, à sa nature psychobiologique. C'est le témoignage sur la lutte du poète contre une substance qui est profitable, mais qui est finalement aussi nocive. C'est l'anatomie de l'insolvabilité de ce problème, aussi bien au niveau humain qu'au niveau de la création artistique.
L'opium est perçu dans ce livre plein d'idées et d'esprit comme une substance qui permet au poète dans l'homme de se manifester. Selon Petr Janus, Cocteau réunit dans son œuvre une vision aristocratique de la littérature avec des exploits des avant-gardes des années 1920. Le traducteur est fasciné par sa méthode de création et ses opinions sur le rôle de l'auteur, sur le rôle du poète.
On ne dit pas que ça crée lui, mais ça crée une certaine force en lui.
D'après Jean Cocteau, ce n'est pas lui, mais une force en son fort intérieur qui crée des œuvres artistiques, une force qu'il n'arrive pas à dominer. Le poète est donc toujours poussé par quelque chose qu'il ne connaît pas bien, mais qui se manifeste à l'extérieur. Plus tard, cette attitude créatrice peut être oubliée, changée, méconnaissable, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Jean Cocteau a toujours cherché de nouveaux moyens d'expression artistique en dépassant les limites des genres, ou de nouveaux moyens d'expression dans la poésie, ce qui était typique pour lui. Il ne s'est jamais arrêté et ne se considérait d'ailleurs pas comme homogène en tant qu'auteur, en tant qu'être social. Peter Janus de constater que Jean Cocteau a subi une cure de désintoxication après plusieurs secousses psychiques, dont la première a été la mort de son ami intime Raymond Radiguet. Ce talent précoce, cet écrivain dont la vie n'a duré que 20 ans, a pourtant réussi à écrire deux romans majeurs, Le diable au corps et Le bal du comte d'Orgel. Après la mort de cet ami irremplaçable, le monde de Jean Cocteau s'est effondré. L'existence lui devient insupportable et il cherche le soulagement dans la drogue. Par la suite, il essaiera à plusieurs reprises de se désintoxiquer et le dernier essai, plus ou moins réussi, lui donnera la matière pour écrire non seulement Opium, mais aussi le roman Les Enfants Terribles, un de ses plus grands succès littéraires. Peter Janus rappelle qu'à cette époque, c'est-à-dire entre 1929 et 1930, un changement important intervient dans la création du poète.
Jean Cocteau se odchyluje naprosto zřetelně od své dřívější
spisovatelské. Jean Cocteau se détourne tout à fait de sa méthode créatrice précédente. Il déclare avoir créé trop consciencieusement, avoir été trop personnel, trop vigilant, trop réveillé, trop rationnel, et il laisse entrer définitivement dans son œuvre l'élément d'un certain somnambulisme. Il est auteur qui se veut un médium endormi ou sommeillant.
Le livre même devient pour Jean Cocteau un moyen de désintoxication, un moyen de se mesurer avec sa dépendance. Écrire est pour lui le même acte créateur que dessiner. Il aime confondre les deux activités. Il dit « Écrire pour moi, c'est dessiner, nouer les lignes de telle sorte qu'elles fassent écriture ou les dénouer de telle sorte que l'écriture devienne dessin. » Ou ailleurs, « Je ne suis ni dessinateur ni peintre, mes dessins sont de l'écriture dénouée et renouée autrement. » Les dessins de l'édition originale d'Opium sont également reproduits dans la traduction tchèque du livre. Peter Janus voit dans ces lignes tourmentées et sinueuses un cri, une expression extrême des états et des sensations d'un malade, surtout dans les moments où il est privé de la substance dont il dépend. Opium est le premier livre paru aux éditions Roubato. Publier un tel livre est un exploit ambitieux et périlleux pour une nouvelle maison d'édition. Peter Janus, qui partage la propriété de cette maison avec son collègue Jaroslav Tvrdoň, en est conscient.
Fonder une maison d'édition dans la situation actuelle et avec les perspectives qui sont les nôtres est une entreprise relativement risquée. Notre intention première a été de publier des livres qui ont de la valeur pour nous. On pourrait le prendre pour un poncif, mais pour nous, c'est important. Nous voulons mettre à l'épreuve la possibilité de publier une littérature de valeur dans les conditions du marché tchèque, qui est petit, confus et saturé par une littérature médiocre et éphémère. Nous avons donc voulu mettre à l'épreuve notre vision en la réalisant. C'était probablement notre première impulsion.
Opium est leur premier livre, mais les deux jeunes éditeurs ont déjà signé des contrats pour la publication d'autres ouvrages. Pour l'instant, ils préfèrent la littérature française. Le prochain livre qui paraîtra en juin sera le roman de Pascal Quignard, Terrasse à Rome, grand prix du roman de l'Académie française 2000, et le troisième titre qu'il prépare à l'édition est le texte d'Henri Michaud, Une voix pour l'insubordination.
Voilà, et c'est déjà la fin pour aujourd'hui du programme qui vous était préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité, et à très bientôt de nouveau à l'écoute des émissions langue française de Radio Prague. Ahoy.
Radio Praga continúa.